Pas à nous les orthodoxes, en tout cas pas à vous. Mais souvent, ça nous étonne de consacrer plusieurs dimanches de l'année liturgique à un concile ou à des conciles. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des pères du premier concile œcuménique de Nicée en 325. Pourquoi les conciles? Et pourquoi célébrer chaque année la fête, la mémoire des conciles et des pères qui ont présidé, qui ont discuté? Le but des conciles n'est pas d'expliquer les mystères de la nature divine. Les conciles ne l'expliquent pas. Ce ne sont pas des cours de théologie qui sont donnés. Mais ce sont, en fonction des hérésies, c'est-à-dire des erreurs qui se propageaient dans l'Église primitive, du premier millénaire, disons, en gros, de prévenir les erreurs ou les fausses approches, les fausses explications, les fausses pensées, les mauvaises pensées ou les écarts, les erreurs de langage dans notre vocabulaire ou dans nos conceptions qui risquaient, pas simplement qui risquaient, mais qui de fait pervertissaient, changeaient l'essentiel de la foi que le Christ était venu nous enseigner et nous montrer. Pour le premier concile, comme pour le second d'ailleurs, il y avait d'abord cet aspect théologique, mais il y avait aussi, et je ne vais pas en parler aujourd'hui, il y avait aussi, les pères avaient le but d'organiser l'Église naissante. Après les grandes persécutions jusqu'à Dioclétien, Saint Constantin fait la paix de l'Église, fait la paix à l'Église et aide à instaurer, à organiser cette liberté autour de la foi chrétienne. Et à ce moment-là, on en profite pour réunir les pères, et les pères les évêques que l'empereur offre gratuitement le voyage de quelques régions, qu'il soit de tout l'Empire byzantin, de tout l'Empire romain, puisque c'est l'Empire romain, et à ses frais, les réunit à Nicée, où certains d'entre vous sont allés, qui est dans la partie ouest, nord-ouest de la Turquie actuelle. Il les réunit là-bas pour voir en deuxième partie comment organiser les sièges apostoliques, c'est-à-dire de voir comment organiser les différents patriarcats, si vous voulez, dans quel ordre se réunir, dans quel ordre parler, et comment cela devrait fonctionner par l'avenir. Ces deux aspects, l'aspect théologique et l'aspect d'organisation de l'Église, ont été, je vais terminer par là tout à l'heure, probablement, ces deux aspects ont été peaufinés, si je puis dire, par le deuxième concile qui s'est tenu en 380, 325 le premier, 380 le second, et qui a davantage insisté sur la place du Saint-Esprit dans la Sainte Trinité. Mais nous n'en sommes pas là encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous fêtons les pères du premier concile, donc 325, concile de Nicée. Car le but des pères, comme je vous disais en commençant, n'était pas de donner des explications ou des définitions intellectuelles sur la Sainte Trinité, la théologie, ou sur l'économie, c'est-à-dire les relations qu'il y a entre Dieu et les hommes, qui soient des explications, comment dire, très, très, très élaborées, mais à travers le vocabulaire et la présentation, ils ont balisé le chemin pour que nous risquions moins de faire des erreurs, car toute erreur de la foi conduit de la doctrine, si vous voulez, conduit aussi à des erreurs dans notre pratique, dans notre vie, donc dans notre relation avec Dieu. Le but des pères du concile était, dans cette optique-là, de préserver l'enseignement que nous a donné Jésus sur le salut de l'homme. Car le thème principal, c'est le salut de l'homme. Le salut de l'homme, je ne vais pas vous faire un cours de théologie maintenant, mais le salut de l'homme est conditionné par la conscience que l'on a de qui est Dieu. Qui est Dieu? C'est une puissance astronomique? Certainement pas. Ou c'est un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit? Là, certainement. Et quelle est la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Tout ça joue sur notre salut. L'enseignement du Christ sur le salut de l'homme, Saint Paul l'a exprimé sous le vocabulaire d'un partage. Ça va faire plaisir à certains pour lesquels c'est une marotte. On partage, n'est-ce pas? Et le Christ a partagé notre pauvreté afin que nous puissions partager avec lui la richesse de sa divinité. Vous connaissez la libéralité de notre Seigneur Jésus-Christ, dit saint Paul, comment de riche il s'est fait pauvre pour vous afin de vous enrichir par sa pauvreté. Vous trouvez cela dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 8, verset 9, si certains veulent. Et saint Jean, lui, le traduit avec un autre vocabulaire, le traduit sous la forme de participation. Et c'est ça que les pères veulent maintenir. Saint Jean dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient parfaitement un et que le monde sache que tu m'as envoyé et que je les ai aimés comme tu m'as aimé. » Ce partage de Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même, avec les hommes, qui se fait homme pour nous faire partager sa divinité, pour nous faire, suivant le vocabulaire johannique, pour nous faire participer à sa divinité, cela, on l'appelle la divinisation. Comment l'homme est appelé à être divinisé, non pas par sa propre activité, mais par une participation que provoque, qu'accomplit le Christ, la deuxième personne de la Trinité, qui, en devenant ce que nous sommes, nous permet de participer de fait à ce qu'il est. Or, la question, qui est-il? Il est un homme supérieur aux autres hommes? Il est une créature? Ou il est Dieu lui-même? Ça, c'était l'enjeu du concile. Vous connaissez la réponse. La réponse, évidemment, c'est qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme. Une seule personne divine, mais une nature divine et une nature humaine. Prenant la nature humaine, il nous remet à son image et à sa ressemblance, C'est-à-dire que lui, qui est l'un des trois de la Sainte Trinité, se fait aussi l'un d'une myriadidité, je ne sais pas comment on pourrait traduire, comment on pourrait dire, d'une myriade de myriades d'hommes qui sont un en lui, de manière à ce que nous soyons à son image. Pour réaliser la divinisation, pour réaliser cette accession par la grâce divine à la divinisation, il faut que vous comprenez bien que le Sauveur, donc le Christ, soit à la fois vrai Dieu et à la fois vrai homme, totalement Dieu et totalement homme. Pas un héros, pas un surhomme, pas une simple créature, même meilleure que les autres, qui n'aurait par exemple jamais péché, mais que vraiment que sa nature soit nature divine, de manière à pouvoir nous communiquer cette nature. Le Christ est un pont, il est une échelle qui unit la divinité à l'humanité, ou qui unit l'humanité à la divinité. Et nos iconographes sont en train de nous peindre l'échelle de Jacob sur l'entrée de l'Église, qui est en lien avec cette doctrine, avec cette réalité. Saint Jean nous dit, en vérité, il rappelle les paroles du Christ, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ce qui est dit pour les anges qui montent et qui descendent sur le Fils de l'homme, sur l'échelle. Le Fils de l'homme, c'est l'échelle dont il est question. Et les anges qui montent et qui descendent, ce sont les hommes. Le Christ est cette échelle symbolique, si vous voulez. Il est ce lien qui, parce qu'il est à la fois Dieu et à la fois homme, nous fait communiquer et passer de l'humanité à la divinité, sans détruire notre humanité, mais en transfigurant, en divinisant notre humanité, en la déifiant. Les hérésies contre lesquelles s'opposent les conciles, avant de vous dire ça, il faut que je voudrais vous rappeler que ces choses-là, vous les affirmez dans le credo, dans le « Je crois en Dieu » que nous chantons tous ensemble à l'Église des jours solennels, ou que nous lisons par un président les jours où nous sommes de moins grande solennité. Nous disons dans le credo que le Christ est vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père. Consubstantiel, ça veut dire avec une substance, une essence commune, pas une essence égale, comme ces deux cuillères qui ont chacune des natures semblables, mais comme une seule essence partagée en deux, en deux, en deux, en deux personnes, ce qui n'est pas le cas pour les cuillères qui ne sont évidemment rien de personnel. Les hérésies, je reviens à ce que je voulais vous dire tout à l'heure, les hérésies qui se développaient au moment des conciles et qui, hélas, ont toujours cours, mais ont été canalisés, ont s'y est opposés, il n'y a pas besoin de recommencer maintenant. Les hérésies portaient atteinte à cette stupéfiante révélation. Pour ce premier concile, comme je vous dis, commençais à vous dire, ou bien le Christ est moins que Dieu, c'est-à-dire une créature divine, c'était la doctrine promue par Arius, doctrine qu'on appelle l'arianisme. Ou bien son humanité est séparée de sa divinité, ce qui fait que, de fait, on se trouve en face de deux personnes. C'est la doctrine développée par Nestor, qui a donné comme hérésie le nestorianisme. Je sais que vous n'allez pas le retenir, mais c'est bien qu'une fois, vous en entendez ces choses. Ou bien alors, il n'est pas complètement homme, il est un surhomme en quelque sorte. C'est ce qui a donné naissance au monophysisme, que le Christ est à une seule nature, alors que nous disons qu'il est deux natures, homme, divine et humaine, ou le monothélisme, c'est-à-dire qu'il n'aurait qu'une seule volonté, comme si les volontés venaient de la personne et non pas des natures. Le Christ étant Dieu et étant homme, il a une volonté divine et une volonté humaine, et toute sa kénose, tout ce que, dont vous entendez parler souvent, toute sa vie a été de conformer sa nature humaine, sa volonté humaine à sa volonté divine, ce qui est aussi notre vocation, et notre vie chrétienne par imitation du Christ consiste précisément à soumettre notre volonté humaine à la volonté divine à travers nos renoncements, à travers notre obéissance et à travers tout ce qui est notre ascèse, alimenté par la communion et par les sacrements. En gros, voilà l'enjeu du premier concile. Premier concile, 325 à Nicée. 56 ans plus tard, ce qui est rien, 56 ans plus tard, il y aura un deuxième concile en 381 qui amènera un supplément, une continuation de cette analyse de la doctrine de ce que le Christ est venu nous enseigner, mais mettra davantage l'accent sur qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce concile-là, montrera que le Saint-Esprit est Dieu, pleinement Dieu, totalement Dieu, au même titre que le Père et que le Fils. C'est celui dont nous parlons encore dans le credo, en disant qu'il procède du Père, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié. Après, c'est une autre histoire, l'histoire des autres conciles. Je ne vais pas vous fatiguer outre mesure en vous racontant l'histoire des sept premiers conciles. Sachez simplement que les six premiers conciles ont été un approfondissement, une canalisation du vocabulaire que l'on peut utiliser au sujet de la Sainte Trinité. Et nous devons en grande partie pour le premier concile, nous avons une énorme dette à l'égard de Saint Athanase le Grand, Saint Athanase d'Alexandrie, qui a inventé pour expliquer ceci, qui a inventé le mot consubstantiel. Évidemment, c'est pas le mot consubstantiel qu'il a inventé, puisque ça c'est du français. C'était le mot homoousios. De même nature, de nature commune, merci. Et à cette époque-là, nous verrons au concile suivant, la présence de exceptionnelle dans l'Église de quatre grands théologiens qui ont marqué définitivement l'expression de la foi de l'Église, qu'on appelle les grands Cappadociens, c'est-à-dire qui venaient de Cappadoce, que certains ont visité, et dont nous avons encore aujourd'hui, dont nous célébrons encore aujourd'hui la liturgie. C'était Saint Jean Chrysostome, Saint Basile le Grand, Saint Grégoire le Théologien et d'autres, Saint Grégoire de Nice, Saint Grégoire et Saint... Les deux Grégoires, voilà. Et voilà. Essayez de ne pas passer à côté de ces fêtes en pensant simplement que c'est des souvenirs lointains d'événements passés. C'est pas des, les conciles ne sont pas des événements passés, ce sont des effusions de l'Esprit-Saint qui est venu à travers les hommes. Le Seigneur, ne sait pas, n'est-ce pas, au moment de la Pentecôte, au moment de l'Ascension, nous avait promis qu'il resterait avec nous et qu'il nous enverrait son Esprit-Saint et que grâce à l'Esprit-Saint, on saurait des choses, on verrait des choses qui n'étaient pas visibles avant tant qu'il était présent sur terre. Eh bien, ces choses-là, il les a révélées notamment, jusqu'à aujourd'hui encore, mais notamment et fondamentalement au moment des grands conciles et ce premier concile suscité par Saint Constantin.